on peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 7 ans ou 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Carole Zerbib.
Bonjour.
Vous êtes proviseur, vous êtes membre du syndicat SNPN, qui est donc le syndicat des proviseurs de collèges et de lycées. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est qu'il s'est passé hier quelque chose de rarissime. Des proviseurs et des chefs d'établissement qui ont manifesté. Ça n'arrive jamais. Vous êtes d'ailleurs, sauf ceux qui sont syndiqués, soumis à un devoir de réserve. Mais là, c'était trop. Un SOS, un véritable SOS qui a été lancé par vous et par vos collègues pour dire la tension, le ras-le-bol, disent-ils, des menaces proférées par les enfants, par les élèves, par les parents et en situation d'extrême tension. Le rassemblement était aussi pour soutenir le proviseur du lycée Maurice Ravel, violemment pris à partie, menacé de mort après avoir demandé à une élève d'ôter son voile. Du jamais vu, sortir comme ça dans la rue pour aller manifester. Pourquoi maintenant ?
Effectivement, c'est bien l'expression d'un ras-le-bol. Voilà, il n'est pas admissible alors que nous effectuons notre travail, hein, pour le proviseur du lycée Ravel, c'est suite à un rappel à la loi. Hein, donc, il était tout à fait dans une situation professionnelle classique. Et bien, c'est après ce rappel à la loi qu'il a été menacé très violemment, hein, sur les réseaux sociaux avec des menaces de mort. Il est quand même pas admissible que dans l'exercice de nos fonctions, nous soyons menacés aussi violemment. Et c'est bien cela, ce ras-le-bol, que nous avons en effet voulu exprimer hier en nous rassemblant sur la place de la Sorbonne.
Vous vouliez alerter, demander aussi aux parents de vous soutenir, de vous comprendre, pour essayer de mieux comprendre ce qui fait que cette menace-là vous a entraîné tous à sortir dans la rue. On va essayer de comprendre avec vous ce qui s'est passé au lycée Maurice Ravel, mais aussi le climat de tension que vous dénoncez avec vos collègues. C'était donc le 28 février dernier, la semaine dernière, le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui est un lycée du nord de Paris, dans le 20e arrondissement, a rappelé à 3 élèves l'obligation de retirer leur voile dans l'enceinte scolaire. L'une d'elles, majeure et scolarisée en BTS, a ignoré le proviseur, ce qui a provoqué une altercation. Voilà ce que dit le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête. Enquête ouverte pour cyberharcèlement et pour menace de mort. Je précise que 2 plaintes ont été déposées, celle du proviseur, mais également une plainte de la part de l'élève qui dit avoir dû résister et avoir été poussé et tapé violemment au bras. Comment vous avez vécu ce récit et que vous dit précisément le proviseur du lycée Maurice Ravel aujourd'hui ?
Enfin, dans cette situation, il y a quand même une infraction à la loi. C'est-à-dire que des élèves entrent voilés dans un établissement scolaire, alors que c'est interdit, hein, que c'est interdit par la loi de 2004, et que cette loi est quand même régulièrement rappelée aux élèves. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça peut arriver en début d'année, hein, les élèves savent pas exactement, ne connaissent pas exactement les règles, et notre rôle, c'est de les préciser, de les expliciter. Or là, ça arrive au mois de février, donc c'est un peu étonnant, hein, 6 mois après la rentrée.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est une forme de provocation, de choix délibéré d'enfreindre la loi?
On peut, à ce moment-là de l'année, on peut effectivement se poser la question. Hein. C'est vrai qu'en début d'année, souvent, on le fait, c'est un travail qu'on fait, bien sûr. On rappelle les règles de l'établissement, on les explique.
Il ne s'agit pas d'une abaya, hein. On va y revenir évidemment. Il s'agit du voile, et oui. Là-dessus, autant sur l'abaya, il y avait eu à un moment, oui, un flottement qui a donc été normalement stoppé par l'interdiction rappelée par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation. Mais je précise que là, il ne s'agit pas d'une abaya. Il ne s'agit pas du port d'une abaya, mais du port du voile à proprement parler, qui lui n'a plus fait l'objet de contestation depuis 2004.
Tout à fait. Et c'est même rarissime que nous soyons confrontés à ces questions de voile dans les établissements scolaires. Alors, je voudrais aussi préciser que ce sont des étudiantes. Elles sont en BTS, donc ce ne sont pas des lycéennes. Ce sont des étudiantes.
Elles sont majeures.
Voilà, elles sont majeures, mais elles ont aussi un statut d'étudiante, ce qui parfois peut provoquer un peu de la confusion, parce que à l'université, les élèves ont le droit d'être voilés. Dans les établissements scolaires, dans les lycées, quand on est en BTS ou en classe préparatoire, eh bien, on est soumis à la loi de l'établissement qui interdit le port de signes religieux, ce qui n'est pas le lieu à l'université. Donc, il peut y avoir, et souvent c'est avec des élèves avec des étudiants qu'on a cette difficulté-là. Il peut y avoir des revendications des élèves qui nous disent, à la fac on a le droit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit au lycée? Voilà. Mais là, nous, on fait notre travail, on rappelle la loi.
Ce que raconte le proviseur du lycée Maurice Ravel, c'est que l'une des trois élèves a donc refusé de retirer son voile, qu'une altercation aurait donc eu lieu. Le récit qu'elle en fait, c'est qu'elle aurait été violentée, poussée par le bras par le proviseur. Que dit le proviseur, lui ?
Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, puisque là, je pense que c'est l'enquête qui va nous dire tout ce qui s'est
l'enquête
passé.
L'enquête est ouverte, enfin, voilà. L'enquête par rien.
Il n'est pas impossible, et ça nous arrive. Là, je pense que dans cette situation-là, et moi aussi, ça pourrait m'arriver de le faire. Une élève ou un élève qui n'écoute pas, on essaie de rattraper par le bras, mais ce n'est pas une violence. Voilà, on essaie de rattraper l'élève par le bras pour lui dire « je suis là, je te parle, tu te retournes et tu m'écoutes ». Voilà, donc c'est des gestes qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas du tout un geste de violence et ce n'était pas dans la volonté de violenter l'élève. Il faut quand même bien faire la différence.
Et d'ailleurs, je précise que ça a pris une tournure politique, puisque Danielle Simonet, qui est la députée de la 15e circonscription de Paris, députée LFI, a écrit sur le réseau social Twitter X « Le proviseur a-t-il frappé l'élève ? Le respect du non-port du voile ne justifie aucune violence physique ».
Si ces propos sont vrais, ils sont scandaleux. Enfin, on sait bien que le proviseur n'a pas frappé l'élève. Ce sont des rumeurs qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux, comme ça arrive souvent d'ailleurs, après ce genre d'incident. Très vite, sur les réseaux sociaux, il y a des allégations fallacieuses qui circulent. Nous, on apprend aux élèves à faire attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Peut-être que certains de nos politiques pourraient aussi faire attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, il en est question en l'occurrence, puisque au-delà de ce qui s'est passé dans cette cour d'établissement, les réseaux sociaux se sont immédiatement emballés. Une menace de mort a été proférée à l'encontre de ce proviseur, qui est donc menacé de mort. Et c'est là que vous estimez qu'il y a bascule, vous et tous vos collègues.
Mais oui, il n'est pas admissible que nous soyons, dans l'exercice de nos fonctions, menacés de mort. Notre rôle, c'est de rappeler la loi. Nous sommes les garants de la loi dans les établissements scolaires. On ne peut pas, à chaque fois qu'on fait un rappel à la règle, être menacé de la sorte. C'est quand même l'exercice de notre métier là qui est en jeu. Et puis, on a aussi, dans l'idée, des précédents. Il y a quand même eu l'assassinat de Samuel Paty, un peu dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des allégations fallacieuses qui circulent très rapidement sur les réseaux sociaux, un emballement qui aboutit à ce qui s'est passé. Donc il y a quand même aujourd'hui un précédent et effectivement, nous sommes inquiets.
Vous êtes inquiet, c'est ce que disaient vos collègues hier, inquiet plus largement de contentieux qui s'ouvrent avec les élèves, parfois sur des mauvaises notes, se faire insulter parce qu'on a mis une mauvaise note à un élève. Il y a votre collègue, Lucie Pitiot, qui est proviseur de la cité scolaire Villon, qui a réagi en racontant sa propre histoire. On ne se lève pas le matin en se disant qu'on va subir des menaces de mort, et c'est pourtant ce qui m'est arrivé à moi aussi le 12 février dernier. Elle raconte qu'après avoir exclu un parent mécontent d'un fils est venu, parce que l'expulsion de son fils ne lui avait pas plu, il est venu dire à ses collaborateurs, aux collaborateurs de cette proviseure, qu'il voulait la tuer. Depuis, elle dit « Je n'arrive même pas à retourner acheter du pain et je ne me déplace qu'en voiture. » La peur au ventre.
Mais on la comprend. voilà, on comprend. C'est ce que je vous disais, c'est pas admissible d'être menacé de mort. Et effectivement, il peut arriver. Alors moi aussi, hein, ça a pu m'arriver.
Ça vous est
d'être
arrivé
menacé par des parents d'élèves. Oui.
Dans quelles circonstances, Carole Zerbib?
Eh bien, parfois, il y a des quand on reçoit des familles. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile d'être obligé de rappeler à une famille ou de dire à une famille qui pense que tout va bien pour son enfant et qui a une vision de son enfant, quand on est obligé de lui dire que ça ne va pas ou qu'on est obligé de sanctionner parce que l'élève n'a pas respecté la règle, et bien parfois il y a des familles qui n'acceptent pas la parole de l'école et du chef d'établissement et même de l'enseignant, parce que ça arrive aussi à des enseignants d'être violemment contestés.
Comment vous êtes sortie de cette situation? Vous vous retrouvez quoi? Dans votre bureau avec des parents qui vous insultent?
Oui, qui m'insultent, qui me menacent. Eh bien, souvent, il y a un dépôt de plainte. Et puis, alors, ce qui est bien, c'est que nous, fonctionnaires d'État, lorsqu'on est menacé dans l'exercice de nos fonctions, le parquet suit. Donc, il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que les familles sont poursuivies. Mais ça arrive.
Est-ce que ça arrive davantage? Ce que disaient vos collègues hier lors de la manifestation, c'est qu'effectivement, d'abord, le sentiment d'impunité des élèves ou des parents d'élèves avait grandi et que le nombre d'actes violents et de tensions augmentait. Est-ce que vous le constatez?
Oui. Oui, bien sûr. Il y a alors les chiffres le disent, hein, on l'a vu, et il y a des actes de violence physique et verbale qui sont en hausse. Alors ça, ce qui se passe à l'école, c'est aussi ce qui se passe dans notre société, hein. L'école n'est qu'un miroir de ce qui se passe dans la société. Mais effectivement, là, ces actes de violence qui sont en hausse, je pense que c'est collectivement que nous devons réfléchir à, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que l'école redevienne ou devienne une sorte de...
Écoutez vos propositions d'ailleurs. Que faire et comment réussir à préserver l'école de cette violence? Mais vous disiez le parquet nous suit. Est-ce que vraiment le parquet vous suit? Le baromètre scolaire de 2022 dit que 400 dépôts de plaintes de personnel ont été déposés dans des dossiers, mais seulement 31 ont été traités par la justice.
Alors bon, ça je connaissais pas ces données, mais moi en tout cas, à chaque fois que j'ai eu à déposer plainte,
vous ne vous êtes pas sentie seule?
Non. Je me suis pas sentie seule.
Vous
non.
avez eu le sentiment que la justice vous entendait?
Oui.
Que des enquêtes étaient ouvertes?
Que les enquêtes étaient ouvertes.
Est-ce qu'il y a eu aussi des discussions qui ont parfois abouti à plus de compréhension de la part des parents? Est-ce que lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, ça ne fait que s'envenimer? Ou est-ce qu'il y a encore un espace de discussion, de parole, d'apaisement?
Alors ça c'est plutôt rare puisque là c'est la justice qui fait son travail, mais effectivement peut-être que c'est des choses qu'il faudrait prévoir, des espaces de médiation où les familles où on pourrait expliquer aux familles qu'elles ont outrepassé leurs droits et que elles n'ont pas eu un comportement admissible comme on fait avec les élèves, hein. Souvent on explique aux élèves, et je crois qu'il faudrait aussi peut-être expliquer aux familles où est la dérive. Moi ce que je voudrais dire aussi et ce que j'aimerais dire aux familles aussi, c'est que il faut aussi qu'ils nous fassent confiance. Nous sommes des spécialistes de l'éducation. Alors, parfois, les familles ont l'impression que parce qu'elles ont des enfants, elles sont aussi expertes en éducation. Et il y a aussi un déficit de confiance. Et il faut rétablir cette confiance entre
Comment?
L'école et les professionnels
Comment?
De l'éducation. Eh bien, en renforçant ce rôle de l'école, en l'explicitant davantage, en ayant aussi un savant dosage entre la bienveillance. Alors, c'est normal d'être bienveillant avec les élèves, mais aussi les exigences. Hein. On ne doit pas rogner sur les exigences que nous avons vis-à-vis de nos élèves.
Est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment que parfois, vous vous auto-censurez sur les exigences que vous pourriez avoir?
Bien, c'est-à-dire que parfois, la bienveillance peut l'emporter sur les exigences qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est ce dosage que nous...
Est-ce que vous avez un exemple de situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé, vous ou vos collègues, et où vous avez senti que vous aviez peur d'aller plus loin?
Oui, ça peut arriver, bien sûr, parce qu'on parfois on les voit arriver les conséquences. On se dit bah là, peut-être que si je vais trop loin, ça peut déboucher sur des difficultés. Mais
votre collègue Kamel Haït Bouali, qui est proviseur du lycée Paul Bert et qui est également secrétaire académique, dit que la raison pour laquelle il s'est rendu hier à cette réunion rarissime, à cette manifestation rarissime, il dit que c'est une question de solidarité vis-à-vis d'un collègue menacé pour des questions d'application de règles. Mais il y a d'autres cas. Il y a une autre collègue menacée de mort suite à un conseil de discipline, ou un autre collègue à qui un parent a dit « Je sais où tu habites et on te retrouvera ». C'est là qu'il y a le passage à une étape supérieure. Je n'avais jamais entendu parler de menace de mort jusqu'alors. À quand est-ce que vous mesurez le basculement ? Est-ce que c'est un basculement sourd qui est apparu depuis, je sais pas, 20 ans, ou est-ce que ça empire depuis quelques années?
Je pense qu'il y a eu, comme vous dites, un basculement sourd depuis quelques années. Hein, voilà, et je crois aussi qu'il y a une sorte de... Les gens s'autorisent maintenant, voilà, il y a des parents d'élèves, des élèves, qui s'autorisent à menacer les personnels dans l'école. Voilà, et je pense que le travail que nous avons à faire, on est des professionnels de l'éducation, il faut qu'on continue, et j'y crois, c'est bien pour ça que je suis encore là. Je crois en l'éducabilité. Je pense qu'il faut qu'on continue à éduquer, à expliciter les sanctions, parce que une sanction qui n'est pas comprise peut donner lieu à ces réactions de violence. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on continue à ce dialogue permanent. Voilà. Même s'il est difficile, il faut qu'on arrive à le continuer.
Est-ce que le ministère de l'Éducation vous suit ?
Oui. Le ministère de l'Éducation nous suit. Et ça, pour nous, c'est important que les choses ne soient plus, elles l'ont été à un moment, que les choses ne soient plus mises sur le tapis. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est d'être soutenu à la fois par les rectorats et à la fois par le ministère.
Il y a eu cet épisode de cette professeure de français qui avait montré un tableau. Ça s'était passé dans l'école d'Issou, au collège d'Issou, un tableau d'un peintre italien qui montre la déesse Diane au bain avec ses nymphes, plusieurs femmes nues sur ce tableau. Elle avait été accusée de racisme par certains de ses élèves qui avaient refusé de voir ce tableau. Des parents d'élèves s'en étaient mêlés. Ils avaient protesté contre le fait que ce support graphique ait été montré à des élèves. Je rappelle que c'est un tableau qui est exposé au Louvre. Est-ce que cet épisode est derrière nous ? Est-ce que vous avez des nouvelles de cette professeure de français ? Est-ce que les choses se sont apaisées ?
Alors, je n'ai pas de nouvelles directement, mais cet événement, voilà, ça c'est typiquement ces contestations d'enseignement auxquelles ont à faire face les enseignants de plus en plus. C'est-à-dire que on remet en cause les contenus d'enseignement et ce qui est présenté aux élèves, là, pour des raisons culturelles, religieuses. Et c'est bien de cela que préserve la loi de la laïcité à l'école. Hein. C'est de ces contestations-là. Montrer aux élèves que la liberté de conscience existe, est garantie dans notre République et que l'école est là pour les élever et les ouvrir à la culture.
Est-ce que cet épisode est un épisode isolé ?
Non, je ne pense pas que ce soit un épisode isolé. Je pense que régulièrement, les enseignants ont à faire face à des contestations. Et nous avions fait d'ailleurs au sein du SNPDEN UNSA une enquête dans laquelle les proviseurs disaient que de plus en plus, les enseignants attiraient leur attention sur des contestations d'enseignement.
Des contestations d'enseignement, est-ce que ça a pour conséquence peut-être de ne plus se mettre dans ce genre de situation, c'est-à-dire de ne plus montrer ce genre de tableau à des élèves, ou est-ce que ça a pour conséquence de créer davantage de tensions ? Quelle est l'attitude des professeurs ?
Eh bien, il y a certains enseignants qui vont être dans l'autocensure et qui effectivement disent qu'ils n'abordent plus certains sujets. Alors, il y a des enseignants très aguerris qui, eux, bien sûr, vont continuer de le faire. Et puis, il y en a d'autres qui se sentent moins solides, moins outillés, et bien qui vont renoncer et être dans l'autocensure. Et ça, c'est pas admissible. Il n'est pas admissible que l'école de la République ne puisse plus traiter des programmes de la République.
Est-ce que le mot autorité n'a probablement jamais été autant prononcé par les politiques que ces derniers mois? Ils disent tous qu'ils veulent rétablir l'autorité. Ça passe par quoi et quels sont les signaux qui vous seraient aujourd'hui utiles et qui vous aideraient dans votre travail?
Je pense que remettre l'école au centre du socle républicain, voilà.
Mais j'ai l'impression que cette formule, elle a été exprimée par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation, par sa successeur. Ça passe par quoi?
Eh bien, se donner les moyens. Alors, il y a plein de choses. Alors, on a parlé de l'uniforme, de la tenue unique. On n'était pas, nous, chefs d'établissement, on n'est pas vraiment convaincus que ce soit utile. Mais je pense qu'il y a aussi la façon dont on va expliquer aux parents, aux familles, ne plus les considérer comme des usagers, parce qu'il y a ça aussi. Quand on est usager, on peut se permettre de
usager d'un service public.
Usager d'un service public. Voilà. Dire qu'on n'est pas un simple service public, mais qu'on est un socle de la République. Voilà, c'est peut-être aussi replacer différemment et appréhender différemment la place de l'école dans la société et lui redonner son importance. Après, il y a aussi les moyens qu'on va donner à cette école. On l'a vu, la réduction des moyens, le fait qu'il y ait de moins en moins de personnel d'encadrants dans les établissements scolaires, moins de surveillants. Et par exemple, on le voit dans toutes les situations de harcèlement, qu'il y ait davantage d'adultes, de surveillants, de CPE, de personnel médico-social, personnel médico-sociaux, d'encadrants, aident à ce que ces situations ne se propagent pas.
Merci de vos réponses et de votre témoignage ce matin. Carole Zerbi, vous êtes donc proviseure, membre du syndicat SNPDEN, UNSA, et je rappelle donc ce chiffre, 163 chefs d'établissement qui ont décidé, fait rarissime, de manifester hier et de lancer ce SOS. Vous avez été entendu ce matin, 8h53 sur RMC BFM TV.